Valeurs HI-203 et 209, initiation à l'histoire du Moyen-Âge. 9e cassette, 2e phase présentée par Monsieur Neveu.
Géographie politique de l'Occident. Il s'agira d'un commentaire des cartes que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire celle du monde occidental d'abord, mais aussi celle du Saint-Empire, et les deux cartes du royaume de France au début du XIVe siècle. Commençons par l'Empire. Il occupe une position centrale entre la mer du Nord et l'Italie médiane. Les frontières sont à l'ouest celles de 843, autrement dit les fleuves Esco, Meuse, Saône et Rhône. Au sud, l'État pontifical. Naples et Sicile sont perdus depuis la fin des Hohenstaufen. À l'est, la frontière est plus mouvante. Citons la Poméranie, la Silésie progressivement germanisée, la Bohême, royaume à partir de la fin du XIIe siècle, qui est de plus en plus intégré à l'Empire, surtout sous la dynastie des Luxembourg à partir de 1310. Citons Henri VII de Luxembourg, empereur de 1308 à 1313, Jean de Luxembourg, roi de Bohême de 1310 à 1346, et enfin Charles IV, empereur et roi de 1346 à 1378. Passons maintenant aux marches de l'Est. Au nord, c'est le Drang nach dem Osten, la progression germanique vers l'Est. Nous avons les villes hanséatiques comme Danzig, Riga, Reval, etc. Puis, le territoire de l'ordre teutonique. Cet ordre, l'ordre des chevaliers teutoniques ou des porte-glaives, a été fondé en Terre Sainte à la fin du XIIe siècle. C'est lui qui, en 1201, a fondé la ville de Riga, puis a conquis la Courlande et la Livonie. Entre 1209 et 1239, c'est le grand maître Hermann de Salza. En 1226, Frédéric II concède la Prusse à l'ordre, et en 1234, le pape devient suzerain de l'ordre et de ses territoires. En 1309, enfin, le siège de l'ordre est fixé à Marienburg, au sud de Danzig, Danzig étant évidemment le Gdansk actuel. L'apogée de l'ordre teutonique se situe au XIVe siècle. À cette époque, l'ordre lutte notamment contre les Polonais et les Lituaniens. Passons au royaume de Pologne. La Pologne est fondée vers 960 par Mieszko Ier, qui est le premier Piast historique, fondateur de la dynastie des Piast. Il règne de 960 à 992 et se convertit au christianisme en 966. Son fils, Bolesław Ier, 992-1025, est le premier roi de Pologne. Au XIIe siècle, la Pologne est morcelée en nombreux duchés. C'est une période de désorganisation politique. La Pologne est d'ailleurs victime de l'ambition de ses voisins, Brandebourg, Lituanie, ordre teutonique, Bohême. Elle est d'ailleurs durement frappée par l'invasion mongole. En 1241, c'est la destruction de Cracovie et de Wrocław, puis la défaite de Liegnitz. La Pologne ne se relève de ce désastre qu'à la fin du XIIIe siècle. Au début du XIVe, c'est l'élection des rois Przemyslid au trône de Pologne. Wenceslas II, roi de Bohême, 1300-1305, et Wenceslas III, 1305-1306. Puis, c'est la restauration de la vieille dynastie des Piastes avec Ladislas Lokietek en 1320. Enfin, signalons le grand roi Casimir III, Casimir le Grand, qui règne de 1333 à 1370, qui est le véritable restaurateur de la Pologne. Passons maintenant au royaume de Hongrie. Vous le voyez sur la carte, il est très vaste au début du XIVe siècle, puisque en dehors de la Hongrie actuelle, il comprend la Slovaquie, la Croatie, la Bosnie et la Transylvanie. La frontière de l'Est est formée par les Carpates. Le territoire a été occupé vers 895 par les envahisseurs hongrois. La première dynastie est la dynastie des Arpades, qui règne de 970 à 1301. La conversion au christianisme date de la deuxième moitié du IIe siècle, mais c'est surtout en l'an 1000, le roi Étienne, qui est le premier roi couronné. Le XIIIe siècle est une période trouble, marquée là aussi en 1241 par l'invasion mongole et par la défaite des troupes royales à Mouhi. Au XIVe siècle, arrive sur le trône une dynastie angevine avec Charles Robert, petit-fils de Charles II, roi de Naples. Charles Robert, roi de 1308 à 1342. Puis son fils, Louis le Grand, de 1342 à 1382. Et ensuite, Marie, sa fille, de 1382 à 1387. Mais Marie épouse Sigismond de Luxembourg, qui va devenir à son tour en 1387 et jusqu'en 1432 roi de Hongrie. Il sera en même temps roi de Bohême et empereur. C'est donc un renforcement du pouvoir royal. Cependant, la Hongrie doit faire face à l'expansion turque et à cet égard, la grande date est la défaite de Nicopolis contre les Turcs en 1396. À l'est de ces royaumes se trouvent des territoires chrétiens, mais qui n'appartiennent pas au christianisme latin. Ce n'est donc pas l'Occident au sens où nous l'entendons. Citons les principautés de Kiev et de Moscou, le territoire de Novgorod, la Lituanie, dont le grand prince Gédimine, au début du XIVe siècle, fait une très vaste principauté. Ces territoires sont menacés à l'ouest par les Teutoniques et à l'est par les Mongols ou Tatars, regroupés dans ce qu'on appelle la Horde d'Or, auquel toutes ces principautés paient des tribus. Passons maintenant au royaume nordique. Tous les rois de ces royaumes scandinaves ont été baptisés aux alentours de l'an 1000, mais la christianisation en profondeur est lente. Elle est surtout l'œuvre des prémontrés et des cisterciens à partir du XIIe siècle. Commençons par le royaume de Danemark. La monarchie y est affaiblie par de multiples crises successorales. Signalons quelques rois. Valdemar Ier le Grand, 1157-1182, qui établit un pouvoir royal fort. Valdemar II, 1202-1241. C'est un grand roi qui conquiert la Norvège et un véritable empire baltique, du Holstein à la Courlande et à l'Estonie, en passant par la Poméranie. Il profite d'ailleurs à cette époque du schisme impérial pour rejeter la suzeraineté de l'empereur. Mais la chance tourne en 1223, car il est fait prisonnier du comte de Schwerin et perd toutes ses conquêtes. Ce revers entraîne une grave crise politique dont la monarchie ne se relèvera pas avant la fin du XIIIe siècle. Passons au royaume de Norvège. Au XIe-XIIe siècle, c'est l'anarchie. Signalons au XIIIe siècle le roi Haakon IV, 1217-1263, qui crée un véritable État. Il pratique également l'occidentalisation sur le modèle français et anglais. Il établit au XIIIe siècle sa domination sur le Groenland, puis sur l'Islande. Enfin, le royaume de Suède. Le Jarl Binger, 1250-1266, est créé la première dynastie solide et fonde la capitale politique Stockholm et la capitale religieuse Uppsala. C'est une période d'expansion dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Le roi de Suède soumet le sud de la Finlande. Au début du XIVe, le roi Magnus Eriksson, 1319-1363, est à la fois roi de Suède et de Norvège, les deux royaumes étant unis pour la première fois. Passons maintenant aux îles britanniques. Sous le règne d'Édouard Ier, 1272-1307, le royaume d'Angleterre s'efforce d'étendre sa suprématie sur l'ensemble de l'île. En 1284, c'est l'annexion du pays de Galles que le prince héritier reçoit en fief. Il aura le titre de prince de Galles à partir de 1301. En Écosse, c'est une période de troubles successoraux. En 1292, Édouard Ier d'Angleterre impose son candidat John Balliol, d'origine normande d'ailleurs. Mais en 1297, c'est un soulèvement populaire dirigé par William Wallace. En 1306, Robert Bruce, lui aussi d'origine normande, parvient à se faire couronner. Il est battu, mais revient après la mort d'Édouard Ier. En 1314, c'est la bataille de Bannockburn, où le roi Édouard II d'Angleterre est battu et doit s'enfuir. À partir de cette époque, et pour la fin du Moyen-Âge, l'Écosse est indépendante. Enfin, en 1371, c'est le roi Robert II qui fonde la dynastie des Stuarts au pouvoir jusqu'en 1714. Cependant, l'Écosse sombre au XIVe siècle dans l'anarchie et la violence. Passons à l'Irlande. Elle est divisée et soumise aux descendants des Normands établis au XIIe siècle. Mais ces Normands sont de plus en plus gaélisés. Signalons, au début du XIVe siècle, une tentative d'unification menée par Édouard Price, venu d'Écosse. Passons maintenant au Royaume de France. Et vous pouvez avoir sous les yeux et de cartes du Royaume de France que je vous ai données. Ce royaume a encore, au début du XIVe siècle, à peu de choses près, les frontières datant des traités de Verdun. En gros, les quatre fleuves, Escaut, Meuse, Saône et Rhône. Cependant, il y a un grignotage du côté des marges de l'Est, notamment le Barrois mouvant en 1301, le Vivarais en 1305, le Lyonnais en 1313, puis le Valentinois et le Diois sous Louis X et Philippe V. Le royaume de France est alors le plus puissant d'Occident. Cependant, le conflit ancien avec l'Angleterre n'est pas complètement réglé, malgré le traité de Paris de 1259. Il reste la question de Guyenne, qui entraînera une guerre franco-anglaise entre 1294 et 1298, qui s'accompagne d'ailleurs d'une guerre de Flandre. Signalons l'expansion dynastique des rois capétiens de France à cette époque. Nous trouvons des princes capétiens, notamment en Italie du Sud, mais aussi, par moments, en Pologne et en Hongrie. Passons maintenant à l'Italie et, plus généralement, à l'Occident méridional. L'Italie du XIVe siècle est une grande puissance économique, mais elle est loin d'avoir fait son unité politique. L'Italie du Nord fait partie du Saint-Empire. C'est théoriquement le royaume d'Italie, dont le roi est également roi de Germanie. C'est l'empereur, couronné par le pape. L'Italie du Nord est partagée entre une série de principautés et de républiques urbaines. Citons le duché de Milan, les villes de Toscane, Sienne et surtout Florence, les villes maritimes, Pise, Gênes et surtout Venise. L'essor de ces villes est né du déclin de l'Empire byzantin. Rappelons en 1204 le détournement de la quatrième croisade par Venise. L'Italie centrale est occupée par les États pontificaux. La mainmise du pape sur ces États est très relative. Ils sont contrôlés le plus souvent par des seigneurs ou potentats locaux. Il doit faire face aux assauts des empereurs, et notamment de Frédéric II. Cependant, au XIIIe siècle, les papes s'appuyèrent sur cet état temporel, pour tenter d'établir une monarchie universelle. C'est le cas pour des papes que nous avons cités, tels que Innocent III, Grégoire IX, Alexandre IV et Boniface VIII. Passons à l'Italie du Sud. Entre 1059 et 1076, c'est la conquête normande par Robert Guiscard et son frère Roger qui chasse les Arabes de Sicile. Le successeur, c'est Roger II à partir de 1101, fils de Roger Ier. Roger II qui unifie la Sicile et l'Italie du Sud et prend le titre de roi en 1130. Il mourra en 1154. En 1186, Henri VI, empereur du Saint-Empire, épouse Constance, fille de Roger II, héritière normande. En 1194, il hérite donc du royaume. Et en 1197, leur fils, Frédéric II, âgé de 4 ans, lui succède. En 1208, c'est la majorité de Frédéric II. En 1211, il est roi de Germanie et en 1220, il est couronné empereur. Frédéric II a une grande ambition, c'est de ramener le centre de l'Empire romain en Méditerranée. Mais c'est finalement un échec, consacré par sa mort en 1250, car il est entré en opposition avec les papes. Et cette opposition va continuer d'ailleurs entre ses successeurs et les papes suivants, notamment Urbain IV, 1261-1264, et Clément IV, 1264-1268. Ces papes offrent le royaume de Sicile à Charles, comte d'Anjou et de Provence, frère de Saint-Louis, à charge pour lui de conquérir ce royaume contre les Hohenstaufen, descendants de Frédéric II. Il y a deux Hohenstaufen qui sont concernés, Manfred, bâtard de Frédéric II, qui domine la Sicile après sa mort. Il est effectivement battu en 1266 sous Bénévent et tué. Un petit peu plus tard, un autre prétendant, le jeune Conradin, fils de Conrad IV, est à son tour battu en 1268 lors de la bataille de Tagliacozzo. ce petit-fils de Frédéric II est finalement condamné à mort et décapité à Naples. C'est donc l'établissement du royaume angevin de Sicile. Mais, quelques années plus tard, en 1282, ce sont les Vêpres siciliennes. C'est une révolte des Siciliens contre les Français de Sicile qui sont massacrés. Ceux qui survivent sont d'ailleurs chassés de Sicile. C'est le roi d'Aragon, Pierre III, qui va profiter de la situation pour s'emparer de la Sicile avec l'aide de Pise et de Gênes. Passons maintenant à la péninsule ibérique. La grande affaire du monde ibérique depuis le XIe siècle, c'est la Reconquista. Au cours du XIe et du XIIe siècle, se sont constitués les royaumes de Castille, royaume de Castille et Léon, qui sont unis en 1037, séparés en 1137 et réunis définitivement en 1230. Puis royaume d'Aragon, constitué par l'union de l'Aragon et de la Catalogne. Royaume agrandi en 1229-1235 par la conquête des Baléares. Les Baléares d'ailleurs qui constitueront un petit peu plus tard, entre 1276 et 1344, le royaume de Majorque, comprenant en outre le Roussillon, la Cerdagne et Montpellier avec Perpignan pour capitale. L'Aragon s'agrandira encore en 1238 de Valence, conquise sur les musulmans. En 1282, nous l'avons dit, de la Sicile. Et enfin, en 1326, de la Sardaigne. Les deux grands rois conquérants sont le roi Jacques Ier, 1213-1276, et Pierre III, 1276-1285. Le roi d'Aragon constitue donc un véritable empire méditerranéen. Prenons le cas de la Navarre, royaume de Navarre qui existe depuis le XIe siècle. En 1234, les comtes de Champagne deviennent rois de Navarre. En 1284, c'est le mariage de Philippe le Bel avec Jeanne, héritière du comté de Champagne et du royaume de Navarre. Jeanne va donc amener ce royaume de Navarre à la couronne de France. Le fils aîné de Philippe IV et de Jeanne, Louis X, sera roi de France et de Navarre. Mais par la suite, la Navarre reviendra à sa fille, Jeanne de Navarre, et qui épousera Philippe, comte d'Évreux, parent de Charles dit le Mauvais, roi de Navarre. Vous pouvez suivre cette généalogie sur le tableau intitulé « La succession à la couronne ». Il s'agit bien entendu de la couronne de France. Passons ensuite au Portugal. Au départ, c'est le comté de Porto qui est indépendant en 1094. En 1139, Alphonse Ier, dit le Conquérant, se nomme roi. Ce titre d'ailleurs est reconnu par le pape en 1143 et entame la Reconquista, qui est d'ailleurs poursuivie par son fils, Sanche Ier, roi de 1185 à 1211. On le surnommera O Povondor, le colonisateur, car il a mis en valeur, sur le plan agricole, son pays, en faisant appel à des colons anglais et allemands. Il reste des États musulmans en Espagne, de moins en moins importants. Citons le califat de Cordoue, qui est en proie à la guerre civile entre 1008 et 1028. C'est la fin des Omeyyades et les chrétiens évidemment en profitent, notamment en 1085 pour s'emparer de Tolède, le conquérant de Tolède, qui agit pour le roi Alphonse VI de Castille, c'est Rodrigo Diaz, le célèbre Cid. Mais par la suite s'établit l'Empire des Almoravides, entre 1086 et 1147, empire considérable qui va jusqu'en Afrique noire, puis celui des Almohades, entre 1147 et 1269. Nous avons déjà parlé, en 1212, de la bataille de Las Navas de Tolosa. Reste donc, à la fin du XIIIe siècle, le seul royaume de Grenade. La Reconquista est donc presque achevée, mais pas tout à fait. Elle marquera une très longue pause, puisqu'il faudra attendre, en 1469, le mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. En 1479, les deux royaumes seront unis à leur avènement, et les deux rois catholiques, comme on les appelle, prendront la ville de Grenade et le royaume de Grenade en 1494, avec pour conséquence le développement de l'Inquisition, c'est l'époque du grand inquisiteur Torquemada, et l'expulsion des Juifs qui étaient très nombreux dans ce qui restait d'Espagne musulmane. Conclusion, ce tour d'horizon nous a permis de saisir quelques lignes de force pour le début du XIVe siècle. Nous le voyons, l'Occident est encore en expansion, mais l'expansion s'essouffle, aussi bien vers l'Orient que vers l'Est germanique. Le vieil Empire romain, toujours ainsi nommé mais de plus en plus germanique, est entré dans une décadence profonde. Il inclut pourtant les régions les plus dynamiques de l'Occident, à savoir les villes de la Hanse et celles de l'Italie du Nord. Quant au royaume de France, il est au sommet de sa puissance et de son influence extérieure, qui se manifeste notamment en Navarre, en Provence, puisque les comtes de Provence appartiennent à la famille des Capétiens, en Sicile, nous l'avons vu, en Hongrie également. Mais de nouvelles puissances se manifestent, notamment le royaume d'Angleterre, qui entre en lutte contre la France lors de la guerre de Cent Ans, et également le royaume d'Aragon, dont nous avons déjà parlé également.